Qu'est-ce qui est culte ?
Le culte traditionnel.
Ce peut être une chanson, un film.
Est-ce que vous essayez de me dire que j'aurais un ticket avec ma mère ?
Malheureusement.
Un livre, une pièce de théâtre, un poème, une émission de télé.
Ça tourne.
Salut, c'est Casimir.
Une émission de radio, une série.
Messieurs, pouvons le reconstruire.
Au début, cet objet culturel dérange. Il divise, il étonne. Puis, comme un bon vin, il s'affine, se divinifie en mûrissant. Alors, il devient culte.
En puissance intellectuelle, on va voir ce que tu veux.
Tous ensemble, célébrons le culte.
Mais avec plaisir.
Europe 1.
Les surprises, t'es peut-être pas au bout.
16h, 18h, Culture Culte.
Asseyez-vous tranquillement, nous avons le contrôle total de l'émission.
Karl Zéro.
Mes chers amis, mes chers compatriotes, chères auditrices et auditeurs, chers vacanciers et chers travailleurs, bienvenue dans Culture Culte. Vous l'avez compris, nous allons célébrer le culte aujourd'hui en compagnie d'un grand témoin, un nouveau grand témoin, culte lui-même, dont la carrière culte évidemment s'est nourrie de multiples rencontres et influences toutes plus cultes les unes que les autres. Musique, cinéma, radio, télé, politique, nous allons les passer en revue ensemble. Merci Paul Personne d'être à nos côtés pour ces 2 heures de pur culte. Ça va Paul ?
Ouais, ça va, ouais.
Alors c'est ta vie que tu vas entendre défiler dans tes oreilles, dans ton casque, au travers de tes choix, puisqu'aujourd'hui, c'est toi, le grand maître du culte. Alors avant toute chose, quelle serait, grand maître, ta définition du culte ?
C'est assez marrant parce que les trucs cultes, en général, parfois, ça peut être souvent des échecs ou des choses comme ça qui, avec le temps, deviennent un truc complètement culte.
Se bonifie.
Ouais, je sais pas, regarde, je sais pas, même... James Dean qui a fait trois films par exemple, toi il est mort, machin, paf, bing, il a jamais vieilli. On a toujours l'image de James Dean et du coup ça devient culte, tu vois, parce que peut-être qu'il aurait pu avoir une carrière fantastique derrière, mais donc il y a toujours une sorte d'inversion dans le mot culte, tu vois.
Et parfois il y a aussi des trucs qui sont cultes parce qu'ils étaient au fond on s'en moquait au deuxième degré et finalement. Ils deviennent, je sais pas, je pense par exemple au film de Philippe Clerc ou de Max Pécasse qui étaient des navets absolus, et finalement aujourd'hui ils sont devenus cultes.
Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, souvent au cinéma, ça, il y a ce genre de truc, ouais.
Alors pour préciser ta vision du culte, tu sais que j'adore les petits jeux, on va le tester tout de suite avec ce questionnaire culte, pas culte. Tu as juste à me répondre culte ou pas culte. De Gaulle.
Oh, culte, je pense, ouais.
Trump.
Oh, on va pas le mettre dans le culte, lui.
On pourrait peut-être le devenir, hein, Trump. Ah, peut-être, hein, peut-être. Parce qu'on s'en moque pour l'instant, mais après, ouais, ça sera comme les films de Pécasse, peut-être.
Peut-être.
Sarkozy.
Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de culte, ouais.
Macron.
Ouais, avec ce qui s'est passé dernièrement, peut-être qu'on va voir. Mais c'est toujours pareil, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais...
Johnny.
Oui.
Dave.
Oh, je pense pas vraiment.
Eduardo.
Il y a des jokers, on peut avoir des jokers.
Les Toubisseries.
Là, je pense pas non plus. Quoi.
Rick Azaray.
Va savoir.
L'apéro.
L'apéro, c'est culte.
Véronique et Davina.
Ouais, je pense pas, ou peut-être juste l'extrait avec Bernard Tapie, quoi.
Merci Paul, tu as parfaitement répondu au questionnaire culte, pas culte. Alors, lorsqu'on t'a demandé, avant l'émission, la chanson que tu te mets à fond pour te motiver, tu m'as dit, sans hésiter, celle-ci, Manish Boy de Muddy Waters. That mean Manish Boy.
You may sitting on the outside, just me and my mate.
Alors cette chanson, on va l'entendre après dans une autre version avec les Rolling Stones, une version que tu dois connaître, qui date de, je crois, 1978, un truc comme ça,
ouais.
Où il les a rejoints sur scène pour son célèbre tube. Pourquoi cette chanson-là ?
Tu te poses pas de questions, quoi. Les mecs sont tellement au bout du truc, et c'est vrai que cette musique-là, moi souvent, elle me refile la pêche quand je commence à trop barjoter ou cogiter, parce que ça va direct à l'essentiel. T'as pas trop le temps d'intellectualiser, quoi. C'est vraiment un truc sexy, quoi, toi. Et donc, Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là.
Mais
parce
il y a
que
une tension en même temps, non ?
Ouais, ouais, ouais.
C'est, ça raconte, sans écouter les paroles, ça raconte une histoire dure, non ?
Le mec raconte juste que c'est un mec et que, tu vois, faut faire gaffe quand même, tu vois.
Faire gaffe avec lui.
Ouais, ouais, ouais. Même par rapport aux filles, tu vois, c'est attention, petite, je peux te faire ça rapide.
T'as compris, Anissa ?
Ouais, ouais, j'ai bien compris. Je vais l'écouter autrement maintenant.
Attention, alors on écoute la version longue avec les Rolling Stones.
Baby, I'll see you. We can have lots of fun. I'm a man. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. The line I shoot will never miss. The way I make love to be high, you just can't resist. Woo! You know the man, spell him H-I-N, no B,
Manish Boy, mais version Rolling Stones. Un petit peu plus lente cette version. L'original était signé Muddy Waters et c'était le choix de Paul Persson aujourd'hui.
Paul Persson qui n'est pas défoncé, contrairement à notre ami Mick Jagger et à Muddy Waters, visiblement, dans cette version. Mais en même temps, c'est l'été, Anissa, oh, donc ouais. On a le droit de s'amuser
on
un petit peu.
On prend son temps, exactement. Europe 1. Jusqu'à 18h sur Europe 1, vous écoutez Carl Zéro qui vous emmène aujourd'hui dans le temple du culte de Paul Persson. Vous voulez découvrir quel est son cinéma culte ? Restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Votre programme jusqu'à 18h sur Europe 1, il est très simple. 2 heures de confession, de souvenirs, de Madeleine, de Proust avec votre invité Carl Zéro. Vous recevez aujourd'hui Paul Persson et nous découvrons maintenant son cinéma culte.
Un deuxième, un troisième.
Film culte. Coupeur.
Alors, quel peut être le film préféré du dieu du blues français, Paul Persson ? Et là, il répond, Jeremiah Johnson de Sidney Pollack, un film de 72, pourquoi ?
Bon, peut-être Robert Redford, mais ça aurait pu être un autre acteur. Redford le fait super bien. Je pense que ce qui m'a plu, c'est le... C'est déjà ce côté décalé qu'il y avait dans ce héros, enfin dans ce mec, qu'on a marre des villes, qu'on a marre de ce qui se passe, et qui a envie d'aller voir un peu autre part, qui a l'espoir d'autre chose, quoi, qui a l'appel de quelque chose, quoi. Et là, il part vraiment un peu la fleur au fusil. Il a essayé de prévoir des choses, mais il est loin d'avoir tout prévu par rapport à ce qui l'attend là-haut, en haut de la montagne, quoi. Et donc voilà, j'aime ce film qui a un côté en même temps un peu rebelle, un peu écolo, un peu tout ça. Et puis ce qui se passe, enfin l'aventure, ce qui va lui arriver, même si à un moment il redescend à la ville pour se destroy d'ailleurs, dans le film. On revoit ce contraste qu'il y a entre une autre vie et celle des Blancs qui se pochetronnent en ville, quoi, tu vois, et qu'on compte toujours cette soif de l'argent, de tout ça, quoi. Enfin, l'être humain, quoi, normal, quoi, tu vois.
Qu'est-ce que tu savais, Paul, qu'il existe un Jeremiah Johnson Band?
Ah non, pas du tout, non.
Alors écoute-les. Ça, Paul, on peut dire que c'est vraiment ta cam. Tu adores ce genre de musique.
Ah ouais, c'est vachement bien. Sur un tempo un peu Neil Young, avec ce côté...
rock sudiste.
Voilà, rock sudiste. Il y a un côté un peu springsteenien avec le sax. Enfin, ouais, j'aime vachement, ouais.
Et si on te dit qu'en musique, tu as des goûts de redneck, que tu es un amateur de musique de bouseux texans, les mecs qui votaient Bush et qui aiment Trump, ça t'agace ou pas? Parce que c'est vrai que cette musique... c'est leur musique.
Ouais, c'est leur zik, mais je suis pas obligé de partager leurs idées s'ils ont vraiment ce genre d'idées extrême droite, raciste et tout. D'ailleurs, si je sais qu'un groupe a ce genre de tendance, tu vois, je vais commencer à plus tellement l'écouter, même si la zik me botte. Parce que j'aime bien aussi quand l'être humain, il est en corrélation avec la musique qu'il fait, et donc si c'est un gros naze, ben je vais peut-être plus écouter sa zik.
Ce qui est étonnant, alors là, rien à voir, et on va surprendre tout le monde, quand on te demande quel est le disque que quand tu arrives dans une fête, tu veux impérativement passer, tu réponds que c'est Good Times de Chic.
Ah yes.
Donc du disco-funk des années 80, ça n'a pas de sens, c'est pas du tout ta musique.
Ah, j'adore ça, Nile Rodgers, la guitare, les rythmes qu'il fait.
Ah, c'est à cause de la guitare.
Ou non, puis même, ça, comment ça tourne, ça groove, c'est sexy, c'est bien composé, c'est... Ouais, je suis pas un danseur, j'allais pas tous les soirs au Palace dans les années 80, mais j'aime bien ça.
C'est pas ta culture, mais tu reconnais que c'est quelque chose qui existe.
Ouais, mais je reconnais plein de choses comme ça par rapport à ce que j'aime. Je suis très éclectique.
C'est ce qu'on va découvrir tout au long de ces 2 heures de pur culte en compagnie de toi, Paul Persson.
Vous êtes bien sur Europe 1, vous avez envie de danser, c'est normal. Vous écoutez Good Times de Chic, c'est le choix de Paul Personne. Voilà le disque qu'il veut impérativement entendre si vous l'invitez chez vous en soirée.
Un
c'est
choix ce étonnant, moi je pensais qu'il mettrait un Johnny ou un truc, pas du tout.
Jusqu'à 18h sur Europe 1, vous écoutez Carl Zéro et son invité aujourd'hui, Paul Personne. Il vous dit tout de lui, il vous dévoile tout ce qui est culte pour lui. Alors quel est son dialogue de film culte ? Restez avec nous, vous allez le savoir dans un instant. Jusqu'à 18h sur Europe 1, Paul Personne se confie à Carl Zéro. Alors après sa musique culte, son film culte, quel est son dialogue de film préféré ? C'est le moment d'en parler sur Europe 1.
Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ?
C'est clonc.
T'approchez pas !
Dialogue de film culte.
Et là, Paul, on n'est plus du tout dans le western de Jeremiah Johnson. On est dans la France de ton enfance. Elle sent bon le pâté, les rillettes, le litron de 12 degrés. La France éternelle, celle qui portait un béret. On écoute.
Ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici ?
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Alors, évidemment, c'est hyper connu. C'est du Audiard. Pourquoi ce choix ? On est très loin de ton univers, là, encore.
Oh non, on est tout proche. Ça me rappelle chez mes parents, la petite télé en noir et blanc, enfin tous ces films, pendant que mon père, il a encore les mains dans le cambouis en train de réparer la traction, tu vois, ce genre de choses. Et non, je suis en plein dans ce truc-là. Et un film comme ça, comme Les Tontons Flingueurs, comme tout ça, puis surtout les dialogues d'Audiard, ça marque vraiment une époque, c'est génial. Et puis toute cette époque-là, c'est... Là, c'est vraiment culte à mort, quoi. Toi.
C'est d'ailleurs, tu sais, le film considéré comme le plus culte de tous les films.
Ouais.
J'avais organisé un festival du film culte, on avait fait voter les gens sur le net et il était arrivé premier,
ouais,
ce film.
Pas, ouais.
Anissa, je crois que tu as une anecdote, le film n'a pas marché au départ.
Oui, c'est ça exactement, vous le disiez aujourd'hui, hein, Carl, ce film est considéré comme le film culte pour les cinéphiles, mais on en parlait en début d'émission. Quand il est sorti, ce film, il s'est ramassé en salle. Parce que ce qui était à la mode et ce que les Français voulaient voir et ce qu'ils aimaient, c'était la nouvelle vague. C'était les films de Godard, de Truffaut. Et ce n'était pas du tout les films de Jacques Audiard et les Tontons Flingueurs.
On écoute Georges Lautner au sujet des Tontons Flingueurs.
Je voulais chercher un décalage. Parce que j'en avais marre des polars réalistes, sérieux, où les truands sont des seigneurs. La parole d'honneur des truands, tout ça, ça m'a copieusement emmerdé toute ma vie. Alors j'ai voulu faire un décalage, mais en le traitant à la manière d'une série noire.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Francis Blanche, qui joue dans le film, il venait du café-théâtre, et en gros son talent consistait à faire le con. Et ça plaisait pas tellement à Lino Ventura, qui aurait voulu un jeu plus sérieux. Et Lautner a poussé Francis Blanche à exagérer, de façon à déstabiliser Lino, de façon à ce que Lino ait l'air excédé tout au long du film. Et c'est ça qui fait le succès du film en réalité, et qui a transcendé le film, et qui fait qu'il continue encore à être adulé. Mais à l'origine, c'était Jean Gabin, Anissa, qui devait interpréter ce personnage de Fernand Naudin.
Ouais, exactement. La production du film voulait vraiment Jean Gabin pour interpréter Fernand Naudin. Georges Lautner a réussi à imposer Lino Ventura parce qu'il était persuadé de ne faire rire personne, en fait.
Ben oui, avec Lino, on savait que même s'il essayait de faire rire, il ferait pas rire, et c'était très important pour ce film-là. À la même époque, qui pour toi est importante, va sortir une chanson qui s'appelle « I was made to love her » de Stevie Wonder. C'est la chanson que tu as désignée comme évoquant le mieux pour toi l'amour adolescent.
C'est juste que ça m'évoque vraiment l'été, l'amour adolescent, les rencontres, les potes, le camping, les maisons de jeunes et de la culture, monter du matos pour jouer avec quelques filles comme ça qui te regardent avec des yeux, c'est cool, il est musicien, enfin toi, bon, tu sais, tout ce truc-là, et puis peut-être que c'était peut-être le début ou peut-être, ouais, j'étais un petit peu amoureux de quelqu'un, tout, enfin, voilà, puis le morceau est tellement, open, comme ça, aéré, avec cette voix de, à l'époque, c'était Little Stevie Wonder, on l'appelait comme ça, c'était le génie, le nouveau petit génie, quoi, derrière Ray Charles, puis c'est une super song, quoi.
On va l'écouter, mais juste avant, une question, tu m'as tendu un petit peu la perche, c'est vrai qu'avoir une guitare, quand on était jeune, ado, ça aidait beaucoup par rapport aux filles.
Ouais, parce que c'était vachement plus... c'était plus mythique que maintenant. Parce que maintenant, ouais, tu joues de la gratte, t'es musicien. Enfin bon, ça, ça paraît un peu banal maintenant, on peut avoir tout facilement. Alors que là, quand tu voyais un mec débouler avec une gratte qui chantait même mal deux, trois trucs, tu sais, c'était... C'était rare, les musiciens, toi. C'est pour ça qu'il y a eu cet avènement comme ça du musicien, les groupies, enfin tout ce qu'il y a eu après, quoi. Dès le moment où tu descendais de scène dans une MJC, t'étais un peu un héros, quoi.
Ah bah, la guitare rendait beau, hein. Tous les guitaristes, ils étaient tous beaux, gosses. Ça rendait beau, hein.
Ah ouais. Et en général, ils avaient autour du cou, non pas une chaîne, mais un petit truc en cuir. Et
bien sûr, c'était un petit cordon.
Bah, évidemment, le cordon. Ça, moi, quand je voyais le mec arriver avec le cordon, j'étais inquiet pour la suite. Je savais que je passerai en deuxième.
Il y avait concurrence.
Oh là, c'était énorme. Allez, j'étais fait pour l'aimer par le petit Stevie Wonder.
Lover, Stevie Wonder sur Europe 1, c'est le choix de Paul Persson aujourd'hui et c'est la BO de son été. Alors si vous êtes en vacances en train d'écouter Europe 1,
ça
si
groove.
Vous travaillez, on est tous en vacances grâce à Stevie Wonder aujourd'hui.
Europe 1.
Jusqu'à 18h, vous écoutez Carl Zéro et son invité. Carl Zéro, vous nous emmenez aujourd'hui dans le temple du culte de Paul Persson. Alors quelle est sa télé culte? Qu'est-ce qu'il aime regarder, Paul Persson? Eh bien vous le saurez dans un instant, à tout de suite sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, soyez les bienvenus dans l'église culte de Paul Persson aujourd'hui. Il est l'invité de Carl Zéro. Nous découvrons tout. Son dialogue de film culte, son film culte. Mais alors, Paul Persson, il regardait quoi à la télé?
Coupure de circuit. Allô, Zébra 2 à Zébra 3.
Cette générosité me laisse pantois.
Attention où vous mettez les pieds.
Moment de téléculte.
Ah là, tu ne peux pas me faire plus plaisir. Quand on t'a dit ton moment de télécule, tu as dit la séquence du spectateur. Alors, je ne vais pas parler de moi, mais cette musique, elle a changé ma vie en réalité à cause de son rythme et qui était en plus un rythme vieux, puisque nous, on regardait ça dans les années 60, mais c'est un truc de 53 qui s'appelle The Desert Road, composé par Charles Telmage et interprété par Juan Montego and the Kingston Orchestra. On réécoute et on va en parler, j'adore. Là, je sens qu'il y a des gens, s'ils sont en voiture, ils sont arrêtés pour danser. Parce que c'est trop génial.
Mais c'est marrant, ça n'a pas vieilli comme musique, finalement.
Bah non, c'est...
Ça
c'est,
passe encore aujourd'hui. Hein.
Bon, ah, parfait, tu le remixes. Qu'est-ce qu'il avait fait, Lou Béga, avec Mambo No. 5?
Oui, c'est vrai, c'est
il
vrai.
Il avait
plus
de musique comme ça, il a rajouté un peu de basse, un peu de boum-boum, et ça marche encore. Ouais. Alors, c'était quoi? Parce qu'Anissa, en fait, elle fait semblant de connaître, mais elle ne savait pas ce que c'était la séquence du spectateur. Raconte à nos auditeurs.
Je crois que c'était le dimanche matin, un truc midi, je crois. Midi. Dimanche midi, avec la, évidemment la présence de Catherine Langer.
Ah, oh, éblouissante.
Ouais, vu qu'à l'époque, il y avait des speakerines. Et donc, je crois qu'il y avait trois films, il me semble. Ça ne durait pas très longtemps. On avait, je crois, 10 minutes par extrait de film, ou quelque chose comme ça. Et voilà, donc on était tous là le dimanche, enfin moi et ma frangine, le midi, à regarder la télé pour
tous
voir.
Tous les gosses regardaient ça.
Ouais, et le choix des films était très divers. Bon, c'était des films grand public, mais c'était très divers.
Et c'était les téléspectateurs qui choisissaient, donc c'était hyper moderne pour l'époque alors.
C'était interactif. Ah, voilà.
Ouais, donc il y avait des petits extraits de films.
Génial.
Et c'était super, parce que c'était... voilà, ça berçait toute l'enfance. Ça commençait à mettre un peu de culture aussi dans la tête des mômes qu'on était, quoi, en disant « Ah ouais, c'est chouette ce film !» Et puis voilà, donc ça préparait pour le futur aussi.
Ça préparait et ça te montrait les films qui allaient sortir.
Ouais.
Sauf qu'au lieu de mettre des bandes-annonces très courtes, comme tu vas les trouver aujourd'hui sur YouTube, c'était carrément un extrait du film. Alors il existait une déclinaison pour les enfants, qui était le jeudi à midi, la séquence du jeune spectateur présenté par alors une marionnette qui est supraculte, Poupée Claire.
Bigoudi a choisi aujourd'hui un dessin de Dominique qui voulait voir un film avec des comiques. Son dessin est très bien. Il nous montre un joli paysage qu'on peut voir en se promenant dans la France. Il y a beaucoup d'autos sur les routes.
C'était perché quand même.
Ils sont très gais, le ciel tout bleu.
À la même époque que cette séquence du spectateur, il y a ton titre Madeleine de Proust, Les comédiens de Charles Aznavour. Pourquoi?
C'est un truc qui passait à la radio. Mes parents écoutaient... je revois ce gros poste de radio à lampe avec une sorte de platine dessus où on pouvait écouter les 78 tours, tout ça. Et d'ailleurs, ça sonnait bien, ces grosses radios à lampe en bois, tout ça. Il y avait du grave et tout, tu vois. La voix des speakers avait du bas et tout. Et donc, voilà, mes parents écoutaient vachement la radio et à l'époque, bah, y avait tout ce qui passait, les compagnons de la chanson, enfin toutes ces choses-là, quoi, Dalida et tout. Et Charles Aznavour, y avait un truc, et cette chanson, on vient voir les comédiens, les magiciens, les musiciens qui arrivent. Il avait vraiment ce côté descriptif dans ses mots, où on imaginait très bien la petite scénette, et pour moi, y avait ce côté magique, peut-être déjà précurseur de ce que j'allais peut-être faire plus tard, quoi, être musicien... ce côté on the road, les mecs qui installent le chapiteau, qui installent le truc, je sais pas, c'était quelque chose qui me parlait. La voix de Charles Aznavour, ses mots vachement bien foutus, la musique qui était entraînante, et je préférais ça à d'autres choses, quoi.
Aznavour.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent.
Les comédiens de Charles Aznavour, ce titre de 1962, eh bien c'est la Madeleine de Proust musicale de votre invité aujourd'hui, Carl Zéro. Vous recevez Paul Person.
Europe 1.
Et jusqu'à 18h sur Europe 1, vous découvrez tout ce qui est culte pour Paul Person, le roi du blues en France. Alors quel est son moment de radio culte? Est-ce que c'est un moment Europe 1? À n'en pas douter, oui. À tout de suite. Vous êtes bien sur Europe 1, c'est l'été et pendant 2 heures, vous apprenez à découvrir Paul Person. Vous savez que c'est un musicien de blues hors pair en France, mais savez-vous ce qu'il écoutait à la radio avant? Quel est son moment de radio culte? Le voici.
Moment de radio culte.
Et effectivement, Paul, tu étais bien sur Europe 1, puisque ton moment culte de radio, c'est Coluche. Ouais. Coluche qui donc est passé plusieurs fois par Europe 1, grâce beaucoup à Philippe Gildas qui nous a quittés et qui faisait le buzz, évidemment. Alors, quand on réécoute, ce qui est frappant d'ailleurs, quand on réécoute Coluche, en fait, il y avait des moments quand même assez mollassons, hein, où il ne se passait rien du tout, mais il y avait des vannes de temps en temps énormes qui sortaient. Mais c'était une radio très différente de celle qu'on fait aujourd'hui en réalité. Alors là, il va lancer un appel, écoute bien.
J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient « Vous êtes bien gentil, vous chantez pour médecin sans diplôme ». Mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs? Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait... un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement.
Et Restos du Cœur sont partis comme ça, tu vois, c'est une boutade au départ sur Europe 1. Il dit, tiens, j'ai une idée, et c'est la force du personnage, c'est que les gens se disent, mais il a raison, et le suivent. Qu'est-ce que tu retiens de Coluche, toi? Tu l'as connu?
Non, je l'ai jamais rencontré, mais c'est une banalité de dire que ce mec nous manque, et que... Qu'est-ce qu'il ferait maintenant? Qu'est-ce qu'il aurait amené?
Est-ce qu'il serait gilet jaune?
Ça, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'il en aurait pensé? Ça pouvait être intéressant. Mais profiter de sa notoriété pour dire toutes ces choses, bon, parce que c'était un gros déconneur, il balançait sur tout le monde, ça, ok, ça faisait même partie de son job, quoi. Mais commencer à mettre à plat ce genre d'idée tout simple, comme ce qu'on vient d'entendre, pour aider les gens, pour créer quelque chose, en profitant juste de son droit de parole. Bon, ça, c'était génial, quoi.
Un peu avant, en 1974, tombent les résultats du premier tour de l'élection présidentielle entre Giscard et Mitterrand. Je dis, il tombe. En fait, il tarde à tomber. Et pour faire patienter les téléspectateurs, Briali invite un jeune humoriste, Michel Colucci, à se produire en direct à la télé avec son premier sketch, c'est l'histoire d'un mec. Et en fait, là, les Français vont découvrir Coluche. Et à la fin de la prestation, Briali lui dit, très drôle, vous devriez vous présenter à l'élection présidentielle. Il croit pas si bien dire, puisque quelques années plus tard, en 81, Coluche tente de se présenter à l'élection présidentielle. On écoute Philippe Gildas.
La dernière année de radio à Europa, là, il était devenu un vrai pro. Il avait d'abord une très belle équipe, il avait un système de travail très au point, il travaillait beaucoup et il faisait travailler ses gars, qui avaient pour lui une espèce de passion, c'était leur dieu.
À cette époque-là, toi, Paul Person, tu vis à Toulouse.
Ouais.
Donc tu es de Toulouse, que tu écoutes Europe 1, tu y as vécu de 73 à 84.
Mm-hmm.
Donc tu faisais quoi? Tu faisais Bracos Band, Backstage, tes premiers groupes?
Ouais, je m'étais barré vraiment de Paris, de son show business, de tout ça. J'avais tout remis en question Et voilà, c'est des potes qui sont venus un peu me perturber là-bas en disant « Allez, tu vas pas rester comme ça, quoi ». Donc, il y a eu ce fameux groupe Brakos Band. Après, ça a enchaîné avec Backstage. Et voilà, je vivais dans une ferme un peu... j'étais un peu comme un indien dans sa réserve, quoi.
Au Baron de Monestrol,
ouais.
Près de Villefranche de Lauragais.
Ouais.
C'était quoi, une communauté, en fait ?
Non, non, c'était... Au départ, on était arrivés là-bas, et puis il y avait des fermes à retaper, tu vois, des sortes de trucs où ils mettaient leurs machines agricoles et tout ça, mais c'était des trucs qui tombaient un peu en ruine. Et nous, on a dit, OK, si c'est pas trop cher, le loyer, on est OK pour retaper le truc, toi. Donc, on était là avec nos cheveux longs, nos machins et tout, mais ils ont vu que on n'était pas des feignasses, quoi, toi. On a été chercher les sacs de plâtre, les machins, on a retapé les baraques.
Oui.
Et je me rappelle, à l'époque, je pense qu'on payait en francs, genre 1000 francs par an.
Ah
toi,
oui.
De loyer.
C'était
toi.
Raisonnable.
C'était très raisonnable et ils nous laissaient peinards. Et puis comme on faisait de la zig, parfois ils venaient nous voir, ils nous amenaient un cubit de vin, tu vois. Enfin, c'était très sympa.
Et puis tu as commencé à jouer avec des groupes qui passaient par Toulouse, Téléphone, Little Bob, Iggy Pop aussi.
Ouais, Téléphone, on se croisait souvent. Ben, même à l'époque où ils n'étaient pas connus, je me rappelle dans un festival comme au Théâtre de la Mer à 7, on achetait la pièce en l'air pour savoir qui jouait avant l'autre parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison que l'un fasse la première partie de l'autre. Donc, bah, c'est nous qui avons commencé avec Brakos. Eux ont continué. On a fini tous ensemble dans une grosse jam et tout ça. Mais tout doucement, j'ai vu que le groupe commençait à partir, tu vois, et j'ai fait « Ok, ça va marcher pour eux. »
La preuve en musique avec ce tube de la playlist culte d'Europe 1.
Titre culte de la playlist d'Europe en Téléphone, un autre monde. Paul Personne se raconte aujourd'hui jusqu'à 18h aux côtés de Carl Zéro. Paul Personne qui a collaboré avec le groupe Téléphone. Jusqu'à 18h, restez avec nous. Paul Personne est l'invité de Carl Zéro. Il vous raconte tout ce qui est culte pour lui. Alors s'intéresse-t-il à la politique ? Quelle est sa politique culte ? Son moment politique ? Vous allez le découvrir dans un instant. A tout de suite sur Europe 1. Le blues en France, c'est lui. Carl Zéro, vous recevez aujourd'hui Paul Personne. Il se confie, vous raconte tous ses souvenirs. C'est Madeleine de Proust et il est temps maintenant de parler politique.
What do you want me to go back to my train?
Je vous demande de vous arrêter.
Séquence politique culte.
Alors pour toi, la séquence politique culte qui t'a le plus marqué de ta vie, c'est un jeune en colère qui agresse un président. Il s'agit de Daniel Balavoine, qui est encore tout jeune. Et en face de lui, bah, y a Tonton, qui s'en prend plein la gueule. On écoute.
Et moi, j'avais pris plein de notes en venant dans votre formation. Non, j'aurais pas le temps. Je le sais déjà que j'ai pas le temps. Ouais. J'ai juste le temps de me mettre en colère.
Est-ce que vous voulez commencer maintenant ?
Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurais le temps, une minute, de m'énerver. Juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Non, non. Si j'avais su que je n'aurais pu rien dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard.
Non,
je
vous remercie. J'ai souhaité votre présence, Daniel Balavoine, dans ce studio pour parler des problèmes de la jeunesse.
Il y a un gros moment de malaise. Il y a une torpeur sur le plateau. C'est vrai qu'à l'époque, on n'est pas habitué à voir des jeunes garçons comme ça se mettre à engueuler un politique. Il y a un respect du politique. Ça ne devrait pas exister. C'est ça qui fait que tu t'en souviens encore.
Ah ouais, parce que c'est révolutionnaire, quoi. C'est une rébellion totale. Et c'est vrai qu'il y a tout ce que tu viens de dire. Enfin, où il y avait ce respect, ce truc, on ne touchait pas. Et qu'un jeune mec... artiste, musicien, ouais, cheveux longs, voilà, déboule comme ça et s'impatiente et commence à mettre les pieds dans le plat. Et je trouvais ça bien, ouais, parce que on le boycottait, ouais, c'était genre, bon, le petit gars, on le fera parler après, quoi.
Oui, donc, en gros, on l'écoutera pas, voilà. Et il aura trois secondes.
Donc, j'ai trouvé ça génial de la part de Balavoine. Il a vraiment les boules, il ose le faire. Et à l'époque, personne n'osait faire ce genre de choses.
Mais en plus, il va loin parce qu'il s'attaque à la fois à l'homme politique et à la politique, mais aux journalistes aussi, parce qu'il dénonce la façon de fonctionner des médias, etc. Ah ouais.
Tu as récemment sorti, le 31 mai dernier, ton nouvel album Funambule, et il y a marqué, entre parenthèses, ou tentative de survie en milieu hostile. Donc finalement, c'est toujours le même combat pour les artistes ou pour les gens un peu différents, comme pour Balavoine à l'époque. Le combat, c'est de survivre face au conventionnel, face à ce monde qui, malgré les années, reste toujours le même, comme un mur face à vous.
Ouais, on essaie de tenir sur ce fil le plus dignement possible. C'est pas fastoche, on sait qu'il y a des tas de choses qui viennent nous déstabiliser. Et quand on entend là Daniel Balavoine, qu'on connaît un peu les attentes, les espoirs de tous les gens maintenant, on se rend compte que tout est intemporel, c'est-à-dire on peut lire Nietzsche ou Platon ou n'importe quoi et continuer à écouter ce que disait Brel, ce que disaient tous les gens, Léo Ferré, Brassens et tout, et on se rend compte que les gens n'arrêtent pas de raconter la même histoire. On passe notre temps à être dépendant de quelques personnes qui dirigent le monde, qui cherchent à savoir qui a la plus grosse, toi, donc pour se faire peur, toi, les uns les autres. Et tout le peuple, derrière, est là en train de traîner la patte et attendre que les décisionnaires veuillent bien faire ci, faire ça. C'est pour ça que le discours de Balavoine est vraiment génial, quoi.
Paul, François Mitterrand était, le sais-tu, la réincarnation du pharaon Seth Ier. Et il le disait lui-même, écoute.
Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin. Et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.
Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Toi-même, est-ce que tu as la foi, Paul ?
Tous ces trucs de prier quelqu'un en demandant d'avoir ci, d'avoir ça, ou de ne pas avoir ci, de ne pas avoir ça, je trouve ça tellement naïf. Quand on voit des images où Hitler... aller à l'église le dimanche ou caresser la tête des petits-enfants et après aller flinguer des milliers de personnes, quoi, ça remet en place un peu les histoires de la foi et des croyances, quoi.
Puisqu'on parle de Dieu, le voici, on va l'écouter. Tu as joué avec lui en 93. C'est le taulier en personne. Voici toute la musique que j'aime de Johnny avec Paul Person.
Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. La musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière.
La musique que j'aime, Johnny Hallyday, pas tout seul, avec Paul Personne. C'était en 1993.
Europe 1.
Jusqu'à 18h sur Europe 1, vous écoutez Carl Zéro, Culture Culte. Carl vous emmène au sein de l'église culte de Paul Personne. Nous allons découvrir dans un instant qui est son personnage culte. Je vous conseille de rester parce qu'on va parler de la plus grande des stars. Il est indépassable. A tout de suite sur Europe 1, dans un instant les infos. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sur Europe 1. Bienvenue dans l'église culte de Paul Personne avec le pape Carl Zéro. Aujourd'hui, nous découvrons ce qui est culte pour Paul Personne, c'est Madeleine de Proust, ses souvenirs, et voici, accrochez-vous, son personnage culte.
Bonjour, c'est moi Casimir.
Personnage culte.
Ah oui, c'est pas vraiment Casimir, ton personnage culte. J'ai été très surpris, d'autant que tu viens de nous dire que tu n'avais pas réellement la foi, élevé dans la tradition catholique, mais l'ayant quitté assez rapidement pour courir les filles et jouer de la guitare. Mais Jésus, alors qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Et pourtant, c'est ton personnage culte.
C'est le plus beau personnage culte. Quand j'ai vu cette question, je me suis dit, ok, il y a des acteurs que j'aime bien, ok, il y a des musiciens, il peut y avoir certaines grandes voies révolutionnaires ou des choses comme ça. Et puis je me suis dit, est-ce que le meilleur, ça serait pas Jésus, quoi? C'est lui le plus beau, qui a un look d'enfer. C'est le héros d'un super bouquin, quand même, tu vois. Je sais pas qui a écrit ce livre, mais c'est le plus grand best-seller du monde.
Qui a traversé toutes les époques, en plus.
Ouais. Ils sont mis à quatre, hein. Ah ouais. Pour revenir plus sérieusement au personnage de Jésus, je te propose qu'on écoute la bande-annonce du film « Jésus » de Zeffirelli.
Cette histoire, on vous l'a contée souvent et de bien des façons, mais jamais encore comme elle vous est contée ici. Nous vous invitons à partager une expérience unique, un film monument fait d'amour et de miséricorde. Un film que nous avons voulu témoin de l'histoire dans ses détails les plus authentiques.
Déjà le ton.
Voici enfin la plus grande aventure qu'ait jamais vécue la race humaine.
Alors, il fait des miracles. C'est quoi pour toi ces miracles? Et le plus grand d'entre tous, le fait de ressusciter. Tu y crois ou pas?
Moi, je veux bien y croire à tout ça. C'est ça qui est génial, toi. C'est parce que là, on entend une bande annonce de film. Si tout ça a vraiment existé, c'était Johnny d'ailleurs qui faisait ça.
Ouais,
ça peut être génial. Et c'est bien de croire en quelque chose. Et je pense que tout le monde attend une nouvelle résurrection, un nouvel avènement de Jésus. Tout le monde attend le nouveau Jésus-Christ, ou dans un personnage charismatique, politique ou religieux ou je sais pas quoi. Et on attend, tu vois.
Et comme on en a marre d'attendre, les inconnus se permettent de rire de Jésus.
Après Rocky IV et Rambo III, le nouveau Stallone, Jésus II, le retour.
Je suis peut-être né dans une étable, mais un jour on me construira des édifices que même les plus gros milliardaires pourront pas se payer.
Et quel est ton nom?
Christ. Jésus-Christ.
C'est bien con. Mais alors, une question, si on peut rire de Jésus, pourquoi on n'a pas le droit de rire du prophète?
Ben je sais pas, ça, c'est parce que chaque religion, je pense, a mis ses barrières, ses dogmes, ses limites, quoi. Et ça, c'est incompréhensible.
Peut-on chanter Jésus?
Il y a plein de groupes christiques, enfin, ouais, christianiques.
Puis il y a les groupes de gospel aussi, qui chantent beaucoup le Christ.
Ouais, à fond.
et il y a ZZ Top. Jesus just left Chicago.
Ouais, super.
Jesus Just Left Chicago, ZZ Top sur Europe 1, parce que le personnage culte de Paul Personne, on vient de le découvrir il y a quelques minutes, c'est Jésus, Karl.
Alors un mot sur ZZ Top, tu as fait la première partie du groupe.
Ouais, c'est à peu près, je sais pas, 4-5 ans, quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement. C'est amusant, Gérard Roux, mon producteur de concerts, qui fait tourner plein d'artistes internationaux, dont ZZ Top, un jour me dit, tiens Paul, tu veux pas... faire la première partie de ZZ Top. Je dis, oh, tu sais, faire des premières parties de groupe américain, ça va, c'est bon, j'ai donné, tu vois, toute ma vie quand j'étais môme et tout, tu vois. Il me dit, bah là, c'est ZZ Top, quoi.
Ah ouais.
Ah, je fais, ouais, combien je pourrais jouer? Ah, pas longtemps, hein, c'est 35 minutes, ou un truc comme ça. Je dis, ouais, mais en même temps, j'ai rencontré plein de gens dans ma vie, mais j'ai jamais serré la louche à Billy Gibbons, quoi, tu vois. Donc, je fais, ok. Et effectivement, on a dû faire, j'ai dû faire, je sais pas, 4 zéniths, enfin, un festival de jazz, jouant les pins, quelque chose comme ça. Et les mecs étaient vraiment cool, quoi. Tu vois.
Ils sont sympas.
Ouais, ouais, ultra cool, quoi.
Europe 1. Jusqu'à 18h sur Europe 1, vous écoutez Karl Zéro et Paul Personne aujourd'hui, qui vous livre tout ce qui est culte pour lui. Vous allez découvrir dans un instant quelle est sa musique culte.
Oh bah ça on imagine.
Toute la musique qu'aime Paul Personne. En tout cas, il y met ses joies, il y met ses peines et vous allez le découvrir dans un instant. À tout de suite. Le rocker Paul Personne se confie aujourd'hui à Karl Zéro.
Au
rocker Karl Zéro. 2 heures de confession, de souvenirs.
À l'amateur de tcha-tcha-tcha, Karl Zéro.
Ça se passe comme ça tout l'été sur Europe 1. Il y a beaucoup de musique sur Europe 1 cet été.
J'aime bien qu'il y ait de la musique sur Europe 1, surtout quand elle est bonne.
Et quelle est la musique culte de Paul Personne? On vous le donne en mille.
Si nous parlions à tour de rôle, à vous d'abord.
Culture culte sur Europe 1.
tu dis que ça a joué, le blues, un rôle de bouée de sauvetage quand t'étais adolescent. Pourquoi ? Ouais.
C'était une sorte de guide. Tu sais, c'est une période où t'es pas mal tourmenté, cette période d'adolescence. C'est le moment où tu cherches de nouvelles inspirations, d'autres valeurs. Tes parents sont encore là, mais le cordon ombilical commence à s'étirer dangereusement. Oui.
Tu
sens
que tu vas pas te contenter de la séquence du spectateur, de Catherine Langer et du boudin blanc toute ta vie.
Voilà, cette période-là est un petit peu passée. Il y a des pages qui se sont tournées depuis et tu cherches quelque chose. Et c'est vrai que le rock en général, c'est-à-dire pour moi tout le rock anglais qui a déboulé avec les Beatles, les Stones, Animals, Kings, tout ça, ça a été énorme. C'était une ouverture, toi, sur la vie. Après, même avec des gens comme Bob Dylan, comme tout ça, toi. Et donc, quand j'ai découvert cette musique blues, ça a été pour moi la possibilité de me retrouver dans ces moments de mal dans ces pompes que t'as quand t'es ado et que tu peux plus te confier à tes parents et t'as pas vraiment non plus de potes à qui te confier.
Donc tu te confies à ta guitare, en fait.
Voilà, et tu te dis, tiens, je suis pas tout seul à être mal, quoi, toi. Et donc ça a été pour moi une sorte de porte de sortie, ouais, effectivement. Ouais.
Deux de tes pointures de référence en matière de guitare et de blues. La première, Jimi Hendrix. Paul, comment expliquer aux plus jeunes qui nous écoutent que dans la France de 68, voir ce mec jouer de la guitare avec les dents et chanter ce genre de chanson t'ouvrait un horizon ?
Ce mec a bouleversé complètement a mis des grands coups de pompe dans les barrières de la musique avec une forme de liberté qui n'existait pas auparavant. Avant, voilà, on faisait des chansons de 3 minutes, 2 minutes 50, il y avait le petit solo de guitare au milieu, la chanson était chouette, était bien foutue, et là, d'un seul coup, ce mec arrive. Évidemment, il y a le côté clown et tout ça, où ouais, il joue avec les dents, il joue la guitare derrière la tête et tout ça. Ok, ça c'était le showman, le côté cirque, un peu que d'ailleurs des de vieux bluesman faisait déjà depuis les années 30, quoi. Mais il avait un métier de fou d'avoir joué avec Little Richard, B.B. King, Ike et Tina Turner, enfin plein de gens. Et il prenait la vedette à tout le monde. Mais dès le moment où il a eu cette liberté de faire lui-même ce qu'il avait envie de faire, dès qu'il est arrivé en Angleterre, il y a Paul McCartney, Mick Jagger, tout le monde allait le voir. Clapton, il s'est pris une baffe monumentale par ce mec. Il n'osait même plus jouer de la guitare. Pete Townsend disait, ouais, il nous a piqué tous nos plans et tout ça, toi. Et donc, c'était un bouleversement total. Et le mec était lui aussi génial, visionnaire. Et il a fait 3 albums.
En fait, tout commence pour toi à 11 ans, tu te fabriques, mon cher Paul Persson, avec du carton, une guitare dont les cordes sont des élastiques, afin de prendre des poses lascives et suggestives devant l'armoire normande de ta famille.
Ouais, c'était un peu le miroir aux alouettes, quoi, tous ces groupes que je voyais, les chaussettes noires, enfin tout... Toute cette vague, Johnny Hallyday qui se roulait par terre avec sa gratte. Donc la gratte, c'était, ouais, la guitare était devenue cet accessoire indispensable à un jeune mec en pleine évolution.
Mais comment tu te payes la première ?
Alors la première, c'était plus tard. Entre-temps, il y a un mec qui m'a filé une sorte de guitare espagnole avec des cordes en acier assez injouables, mais ça me permettait de relever les premiers accords des Beatles, ouais. Des Stones, tout ça. Et ma première gratte, je suis allé l'acheter en Angleterre. En tout début des années 70, peut-être, 70-71, parce que c'est là-bas que ça se passait. Il n'y avait pas de marché d'occasion en France, tu vois.
Même à Pigalle et tout, il n'y avait pas encore les magasins.
Non, c'était vraiment des trucs neufs, tu avais à peine le droit de toucher aux instruments. C'est alors tu vas l'acheter ? Alors, je ne sais pas encore, il faudrait que je l'essaie. Non, tu me dis si tu l'as... Enfin, tu vois, c'était un peu tout ce truc-là, toi. T'as combien d'argent sur toi, tu vois ? Et c'était vraiment, c'était chaud, quoi.
J'ai 42 francs, tu en passeras, mon bonhomme.
Donc c'est vrai que le truc vintage, c'était là-bas que ça se passait, c'était à Londres. Donc tu débarques là-bas, t'as toutes les bonnes adresses, c'est un peu comme Pigalle, t'as tous les magasins qui succèdent. Et là, t'as des mecs vraiment pros, tu vois. Alors moi, j'avais dit, ouais, je cherche une gratte un peu, une sorte d'épiphone comme celle de Johnny Winter. Et puis le mec me met des grattes comme ça entre les pattes et je joue. Et le mec, il me dit, tiens, la manière dont tu joues, tu veux pas essayer celle-là ? Il me sort une SG blanche. avec un seul micro, un peu comme celle de Louis Bertignac, mais blanche, quoi, toi. Et j'essaie la gratte, et waouh, elle sonnait d'enfer. J'ai fait, ok, je prends.
Qu'est-ce que t'en as fait ?
Bah, je l'ai revendu, malheureusement. J'ai revendu tellement de guitares pour payer un loyer, pour bouffer dans mes années contre-culturelles, tu sais, dont on parlait tout à l'heure, dans les vieilles fermes et tout ça, que malheureusement, j'ai plus cette gratte. Elle me manque, parce que c'était une guitare qui sonnait bien, mais non.
De quoi tu joues sur les autres ?
Je joue avec une Les Paul Reissue 59.
Oh, c'est pas mal quand même.
C'est très très bien.
On écoute ce que ça donne.
De Paul Personne sur Europe 1, extrait de son dernier album, Le Funambule ou Tentative de survie en milieu hostile. Il est sorti le 31 mai, on en avait parlé sur Europe 1 au moment de sa sortie. Bien, sachez que Paul Personne sera en tournée dans toute la France cet automne, Alençon, Poitiers, Jouer-les-Tours, Lyon, Limoges, Meaux. Il va passer près de chez vous, Paul Personne. Et puis il y a une date à retenir, évidemment, c'est celle du 27 mars. Rendez-vous à l'Olympia. Jusqu'à 18h sur Europe 1, Paul Personne vous ouvre les portes de son temple culte, radio, musique, cinéma. Il est temps maintenant de parler littérature. Quel est le livre culte de Paul Personne ? Vous allez le découvrir dans un instant. En tournée ou chez lui pendant ses séances d'écriture, Paul Personne lit. Alors quel est son livre culte ? Il vous dit tout aujourd'hui aux côtés de Carl Zéro.
On raconte toutes sortes d'histoires.
C'est vrai. Tout est vrai.
Livre culte.
Alors, tu n'as pas traîné très longtemps au rayon littérature, tu t'es précipité sur la route, évidemment, de Jack Kerouac. Pourquoi ?
Ah, ça a été vraiment le départ, là aussi, d'une sorte de voyage initiatique. Quand tu lis ce bouquin, qui est quand même assez banal, quoi, les mecs, ils doivent emmener une bagnole de la côte est à la côte ouest, tu vois. Ils partent un peu en freewheeling, comme ça, tu vois. Et ok, bon, ils traversent des tas d'aventures. Mais ce qui est marrant, c'est que ça a été vraiment le point de départ de toute une lecture un peu beatnik, tu vois, pour employer un mot comme ça, tu vois. Et t'avais l'impression de lire ça et t'étais prêt à lever ton pouce sur le bord de la route pour aller vers une destination inconnue pour te dire, ouais, moi aussi, je veux. J'ai envie de connaître ça. Maintenant, c'est comme ça que je vais voyager. Je vais me débrouiller autrement. Et ouais, ok, j'ai pas un boulot stable. J'ai pas une vie normale et tout. Ouais, bah, c'est la vie que je choisis, quoi. Donc, c'est une sorte de départ vers une forme de rêve aussi, quoi.
Mais ce qui est fascinant chez toi, c'est que ce rêve adolescent, tu continues à le vivre.
Ouais.
C'est-à-dire que généralement, les gens qui s'élancent vers des destins comme ça à 16 ans, ils ont renoncé à 22 et ils sont au tripostal. Et toi, t'es toujours sur la route avec ta guitare.
C'est grave, docteur.
Et la destination, évidemment, dans le livre et dans ta vie, c'est ta destination culte, San Francisco.
San Francisco, s'en brûle. Quand San Francisco s'allume. San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi.
Alors lui, c'est pas un bluesman, mais presque là.
Ouais, puis sa chanson est super, elle témoigne d'une chose réelle. Et c'est vrai que San Francisco m'a vraiment fait rêver à l'époque où ça se passait. J'ai souvent dit... Ouais, il y a deux endroits où j'aurais vraiment voulu être à l'endroit où ça se passait. C'était Londres, tu vois, vers 66, 65, 66, au Marquis Club, enfin dans tous ces endroits.
Carnaby Street.
Exactement. Et, mais je ne pouvais pas y aller. Pourtant, j'avais l'âge, mais je n'avais ni le pognon. Et puis, j'étais encore chez mes parents.
Bah, tu avais encore la guitare en carton, surtout. Donc, c'était compliqué, quoi.
Et c'est vrai que San Francisco, voilà, il y avait des news comme ça dans des magazines. Il y avait quelques reportages à la télé aussi. Je sais qu'il y avait Michel Lancelot aussi qui en parlait, qui animait des émissions.
Et puis,
comme
on lisait Rock'n'Folk et Best.
Exactement. Donc
tout se passait là.
Ouais, je me rappelle d'articles d'Alain Dister, tu vois, en direct de San Francisco, où il était là, tu vois, sous le panneau Ashbury, tu vois, Ashbury, tu vois. Et je savais qu'il se passait plein de trucs là-bas. Et j'avais vraiment envie d'y être. Il y avait des tas de grandes librairies. Enfin, voilà, il se passait des trucs, quoi. Et peut-être que c'est bien que j'y sois pas allé, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui n'en sont pas revenus, parce qu'il y a eu aussi des tas de... Ouais, avec la dope, avec tout ça, toi, ça a pris des proportions, toi. Donc, puis le fameux Summer of Love, en fin de compte, n'a duré que cette année-là, toi. Après, c'est parti en vrille un petit peu, quoi.
Tu sais qu'il y a un bus tour du Summer of Love.
Ah non, je savais pas.
Ah, génial.
On peut visiter, et il y a un guide qui dit, et là, il y avait des hippies qui se droguaient.
C'est top.
Non, ouais. Ça existe. Alors, c'est curieux, je te disais que c'est un destin, finalement, de cette génération beatnik, ce que tu nous évoques. La dernière chanson que tu veux entendre, et même celle que tu veux qu'on passe à tes obsèques, qui arriveront, je te rassure, dans très très longtemps, est une chanson également grande époque des hippies. Light My Fire, les Doors.
Et chose promise, chose due, culture culte qui continue dans un instant avec Car Zero. Ce sera juste après The Doors. Belle fin d'après-midi à tous. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. My Fire, les Doors sur Europe 1, c'est le choix de Paul Persson. C'est la musique qu'il voudra qu'on entende à ses obsèques. Bon, ça sera dans très très longtemps, effectivement. Paul Persson qui vous fait aujourd'hui découvrir son temple du culte. Et dans un instant, nous allons parler du théâtre avec Paul Persson. Carl Zéro, jusqu'à 18h, reçoit le bluesman français Paul Persson, qui se confie, qui partage avec vous sur Europe 1 tous ses souvenirs d'enfance, ses Madeleine de Proust, ses musiques préférées, ses personnages de films préférés. Il est temps maintenant de parler théâtre.
16h, 18h, Culture Culte sur Europe 1.
Qui êtes-vous ?
Carl Zéro.
Alors tout commence, puisqu'on va parler de théâtre, par un groupe qui est ton premier groupe, qui s'appelle L'Origine. Ouais. C'est quoi ce groupe ? T'as 17 ans et tu réussis à obtenir la production d'un 45 tours pour Pathé Marconi.
Ouais.
C'est quoi que vous faites exactement ?
Bah nous, on était influencés vraiment par la musique anglo-saxonne à fond. En même temps, quand on allait jouer dans les clubs, dans les trucs comme ça, ok, on faisait des covers, toi, de Stone, Beatles, enfin voilà, tous ces trucs-là. Mais dès le moment où on composait, c'était des trucs assez originaux, quoi, avec des paroles en français. On a rencontré un mec qui s'appelait Christian Dupont, qui était plus vieux que nous, mais qui était prof de français, philosophe et tout, qui nous faisait des textes un peu abracadabrants. Et nous, on était complètement partis dans un truc.
C'était un peu expérimental.
C'était complètement expérimental.
Un peu révolutionnaire.
À mort. Ouais, ouais. Comme Magma a pu faire, quelque chose avec du cobayen et tout, tu vois, comme s'il vivait sur une autre planète.
Donc c'était des morceaux longs. Avec des solos longs.
Non, pas forcément d'ailleurs. Non, c'était pas forcément, mais c'était des trucs, une sorte de recherche. C'était de la pop musique, tu sais, avec des chansons. Parfois, il y a même couplet-refrain, mais avec des parties bizarres, des trucs d'orgue, des ambiances. Je me rappelle, on avait été faire une émission, le Pop Club, un soir, et Blanc Francard, qui amenait les importations Gévaudan, tout, dit « Ouais, bon, votre truc, ça fait penser un peu à Pink Floyd et tout. » Et nous, on n'avait jamais entendu parler de ce groupe-là, tu vois. On savait pas. Mais apparemment, on était dans cette mouvance-là, pour D'accord. te donner une idée, quoi, tu vois.
Alors, il n'y a pas de hasard. En 73, déboule à Paris une troupe théâtrale pas piquée des hannetons, le Liquid Theater. Donc, une sorte de ramassis de hippies défoncés qui font un théâtre extrêmement étrange. Et c'est ton groupe, L'Origine, qui est choisi pour mettre en musique leurs pièces.
Ouais, c'est... Y a un mec qui nous met en rapport avec eux parce qu'il cherchait un groupe... français, enfin voilà, local pour s'occuper de ça. Et nous, on a été sélectionnés un peu pour l'histoire. C'était vachement bien, très enrichissant. La pièce de théâtre, c'était une sorte d'évocation de la Genèse avec voilà, la création du monde. Enfin, ouais, c'était barré quand même, toi.
Ah, c'est très barré. Moi, j'ai essayé de regarder parce que je n'ai pas vu en live le Liquid Theater. Mais par contre, sur YouTube, tu retrouves des images qui datent de 73. Alors là, c'est pas en France, c'est aux États-Unis. Et alors, ils sont à moitié nuit. Se caressent, il y a une espèce de truc. On dirait que c'est un sketch, mais c'est en vrai, quoi. Tu vois, ils sont quand même perchés, les mecs.
Ah ouais,
c'est puis, hyper drôle à voir.
Ouais, puis avant, tu sais, t'as les gens qui arrivaient au théâtre, c'était à l'espace Pierre Cardin.
Ouais.
Et avant d'accéder à l'endroit, à la salle, on va dire, t'avais toute une sorte de labyrinthe d'itinéraire un peu sensoriel, avec des odeurs, avec des trucs qui te mettaient en condition déjà un peu d'extase ou d'extra-sensibilité.
Oui,
tu
c'était
vois,
un donc, trip, ce qu'on appelait.
C'est perché, complètement.
Ouais. C'est perché complètement. Ah bah c'est très 70s, mais en même temps follement culte aujourd'hui. Mmh. C'est dommage que ça n'existe plus, ce théâtre liquide.
Ouais. Par contre, ça a été le départ pour nous d'un groupe qu'on a fait après, qui s'est appelé La Folle Entreprise, tu vois, où pareil, on était avec 5-6 filles, tu vois. Enfin, moi, j'adorais, tu vois, Joe Cocker avec toutes les choristes, avec les deux batteurs, tout ça. Donc, il y avait une sorte de mélange de musique sauvage, comme ça, et puis, en même temps, très rock, avec des choristes, avec des percus, on distribuait des tambourins et des maracas dans la salle. On avait fait notre scène nous-mêmes. Enfin, c'était toute cette expérience communautaire qu'on amenait dans chaque ville où on allait. Et ça a été le Liquid Theater, comme ça, a été vraiment un déclencheur de ça aussi, quoi.
Pour évoquer cette époque disparue, mais géniale, on a choisi un tube culte d'Europe 1. C'est Cat Stevens avec Wild World.
Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild. me, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl.
Stevens sur Europe 1, Wild World, pour parler du théâtre américain des années 70 et le théâtre un peu psychédélique hein, qu'a choisi aujourd'hui Paul Persson. Il est votre invité jusqu'à 18h, Carl Zéro. Le temple du culte de Paul Persson, vous le découvrez jusqu'à 18h. Dans un instant, on va parler de son enfance. Et là, ce sont des souvenirs beaucoup plus personnels que vous réserve Paul Persson. Paul Persson est l'invité de Carl Zéro jusqu'à 18h. Il se confie musique, cinéma, radio, livre, théâtre. Nous allons maintenant parler de ce qui le concerne beaucoup plus personnellement, son enfance.
La force, elle t'appelle.
16h, 18h, Culture Culte.
Rien ne nous arrêtera.
Carl Zéro sur Europe 1.
Rien ne nous arrêtera, c'est vrai, puisque nous allons écouter le tube culte qui te fait penser à tes parents. Et c'est un tube que moi, personnellement, j'écoute encore et que j'adore.
Ah bah ça doit pas être tout jeune alors.
Eh bien, il date de 1936, eh ma bah petite voilà. Anissa. Et c'est Tino Rossi avec Marinella.
Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi, je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Son rythme doux nous emporte bien loin de tout. Vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus.
Marinella de Tino Rossi sur Europe 1, c'est le choix de Paul Persson quand il veut évoquer ses parents, Carl.
Oui, je pensais bien que Paul n'était pas comme moi, fan de Tino Rossi. Alors tu as passé ton enfance à Houille et ton père était ouvrier et parfois il jouait de l'harmonica.
Ouais, ouais. Ouais, souvent le dimanche, parfois, il sortait l'armeau après le poulet puré.
Ouais.
Ou le roast beef, toi. Mais moi, déjà, à cette époque-là, j'aimais pas trop la viande. Mais... Et voilà, il y avait ce côté mélomane dans la famille. Tout à l'heure, je disais que la radio marchait souvent, la grosse radio à lampe. Voilà, mon père jouait de l'armeau, il passait des disques. Je me rappelle de cette grande pile de 78 tours.
Sur lequel il écoutait Marinella.
Exactement.
Mais qu'il avait pas acheté en 36. En 36, il avait quel âge, ton père?
Il est né en 17, toi.
Ah, donc, si, alors, donc,
toi, il aurait pu.
Il aurait pu, ouais, il aurait pu. Ouais.
Et alors voilà que tes parents ont une drôle d'idée. Ils achètent au boulanger un accordéon pour toi. Je n'invente pas. Et ils te demandent de jouer l'eau vive de Guy Béard.
Ouais, disons qu'il me colle cet accordéon rouge pailleté qui n'était pas très grand d'ailleurs entre les pattes, et moi je suis là avec une ampoule qui s'allume au-dessus de la tête genre ouais, qu'est-ce que j'en fais? Et donc j'essaie de faire quelque chose mais j'en tire absolument rien, et ma frangine qui me dit tiens, fais voir, elle prend le truc, et spontanément, enfin je veux dire peu de temps après, ouais, je vais dire une demi-heure après, elle commence à pianoter « Ta petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive », quoi, de la mélodie de Guy Béard. Et là, mon père, il voit que « Mauvaise pioche », c'est pas le fiston qui est doué pour la zig, c'est la grande sœur. Quoi.
On a retrouvé l'extrait sonore. Ah, on reconnaît le doigté de ta sœur. Hein.
Ah ouais, à fond.
Il y a quelque chose. Ouais. En fait, non, c'est le petit Johan et son accordéon. Il a déjà une chaîne YouTube et il n'a que 148 abonnés.
Oui, mais il n'a que 11 ans, Johan.
Il n'a que 11 ans et il joue l'eau vive. Donc, c'est faisable, tu vois, Paul.
Ouais.
T'aurais pu le faire. Mais toi, c'était plutôt la batterie qui te tentait. Donc, t'as bricolé, j'imagine, avec des pots de Skip ou d'Ariel, une batterie.
Ça n'a même pas été ça. C'était une boîte de gâteaux. Tu sais, ces trucs à l'alsacienne, ah, la machin en fer, machin, en fer, ouais, que tu retournes.
La panettone.
Voilà, pour pas flinguer le couvercle, toi, tu le mets à l'envers. J'avais pris des aiguilles à tricoter à ma mère, une louche.
Ah ouais?
À l'envers, comme, et ça faisait l'affaire, quoi, tu vois. Ça faisait le job, là, pour la batterie, pour jouer, où j'avais mon tépaz avec mes 45 tours de Johnny, des chaussettes noires.
Et t'accompagnais, évidemment, voilà. Renforçais la rythmique, simplement, voilà, de ces artistes.
Ouais.
Alors, tu te retrouves titulaire d'un CAP de tourneur-fraiseur, mm-hmm, alors que tu rêves de San Francisco, la vie est mal faite, finalement.
Sur le moment, je dis, ok, c'était pour faire plaisir à mes parents, mais j'en ai rien à foutre. Mais en fin de compte, ça m'a été vachement utile dans la vraie vie, quoi.
Mais pendant que vous passiez tous ces diplômes, vous aviez déjà des groupes de musique, vous étiez déjà dans la musique. Ouais.
Ah ouais, puisque ce CAP, j'ai dû l'avoir, je sais pas, à 17 ans, un truc comme ça, et je faisais de la zik avec les potes, c'est l'histoire classique des groupes de rock au collège. Quoi. Donc,
à 15 ans, il avait son premier groupe, les Douglas.
Ouais. Voilà, ouais, vers 14-15 ans, ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc, il était passé de la boîte en fer sur laquelle il tapait avec la louche au Douglas,
voilà,
où il était batteur.
Voilà,
avec une vraie batterie, c'est vrai.
Ouais, ma soeur qui m'avait acheté une caisse claire, une cymbale, on avait piqué une grosse caisse dans une MJC, enfin, ça avait été un truc. Ouais, ouais, après, il y a eu les Taciturnes, enfin, des tas de groupes comme ça.
Les noms des groupes sont géniaux, quand même.
Les noms étaient énormes. Alors, pour te punir de ne pas avoir été capable de jouer à l'accordéon l'eau vive, voici Guy Béard qui nous a quittés et qu'on adore.
Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets, dans le laurier, le thym et le serpolet. Un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du rameau pour l'amener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Petit bateau emporté par l'eau vive, dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive. Voguez, voguez, demain vous accosterez. L'eau
vivenait pas encore à marier. Pourtant un matin nouveau, à l'aube mon eau vive viendra battre son trousseau aux cailloux de la rive. Pleurez, pleurez, si je demeure esselé. Le ruisselet au large s'en est allé.
Vous êtes bien sur Europe 1 et c'est l'été, alors on se rappelle des souvenirs. C'était le choix musical de Paul Personne aujourd'hui pour évoquer son enfance, l'eau vive de Guy Béard. Nous sommes ensemble pendant encore quelques minutes avec Carl Zéro, avec Paul Personne qui vous dévoile tout de sa vie. Alors quelle est sa chanson culte? Quelle est la chanson qu'il aurait aimé écrire ou chanter? Vous allez le savoir dans un instant, à tout de suite. Depuis 16 heures, vous connaissez presque par cœur le bluesman Paul Personne. Il s'est confié, il vous a tout dévoilé. Ah, peut-être pas sa chanson culte.
Lance-toi, tu pues, et marche à l'ombre.
Chanson culte.
La chanson que tu as choisie, mon cher Paul, elle est très connue. Alors que le mec qui la chante n'est pas très connu.
Ouais.
C'est très étrange. Quand tu vas la chanter tout à l'heure, puisque tu vas nous faire le plaisir de nous l'interpréter, tu es venu avec ta guitare. Quand j'ai lu ton choix, je me suis dit, mais c'est quoi cette chanson? Quand je l'ai écoutée, évidemment, je la connaissais. Et donc, je me suis penché un peu sur cette carrière curieuse de ce type donc, qui, au départ, avait 3,5 octaves, donc super chanteur. Et à la suite d'une nuit passée sur la plage, il a perdu 2 octaves. Il a pris froid, mais tu le savais ça?
Non, je connaissais pas l'anecdote exacte.
À cause d'un coup de froid seulement?
Un coup de froid, et le gars perd 2 octaves, et alors il a une voix plus rauque, un peu comme Paul, et il change de carrière, et il se met à faire des tubes plus rauques que la chanson qu'il a fait connaître en 69. Alors pourquoi t'as choisi cette chanson-là?
Ah, c'est une chanson qui m'a toujours fait planer. Bon, d'abord, c'est une chanson un peu générique de Macadam Cowboy, avec Dustin Hoffman et John Voight, là, tu vois, qui est un super film. Et je sais pas pourquoi, c'est une chanson qui m'emmène autre part. Enfin, bon, déjà, on est encore dans On the Road, là, dans Sur la route, un peu de Kerouac, avec cette chanson-là.
Mais finalement, toute ta vie, c'est quitte et houille.
Ouais, mais il y a peut-être de ça, hein. J'ai toujours aimé partir. Au milieu de cette route, avec un énorme point d'interrogation, et peut-être que le fait d'avoir choisi d'être musicien, de te barrer en tournée comme ça, de jamais dormir au même endroit, c'est que cette vie-là m'appelait, cette
une
vie
quête
d'incertitude,
de liberté, puis, quoi.
Ouais, de liberté,
de liberté absolue en réalité. Eh bien, écoute, on va t'écouter dans cette version de Everybody's Talking par Paul Personne.
Everybody's talking at me. I don't hear the word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of north east winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear the word they're saying, only the echoes of my mind. I wanna let you leave my love behind. I won't let you leave. I won't let you leave my love behind.
Paul, c'est sublime.
Paul Persson et sa chanson culte Everybody's Talking, interprétée hein, par Paul Persson sur Europe 1. Il était votre invité depuis 16h, nous avons appris à le connaître. Juste le temps pour moi, avant de se quitter, Karl, de vous rappeler que Paul Persson et son nouvel album Funambule ou Tentative de survie en milieu hostile sera sur scène. Vous pouvez l'applaudir partout en France à partir de cet automne, à partir du 10 octobre à Alençon, à Château-Renard, à Cléon, à Vichy, à Meaux, à Marseille, à Toulouse, à Blois, à Strasbourg. Il va forcément passer près de chez vous. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes les dates sur Internet. Et puis Paul Persson, il y a une date à retenir, c'est le 27 mars
et
prochain
puis,
à l'Olympia.
Il y a l'album, Anissa, il y a l'album aussi, Funambule.
À écouter, ouais.
À écouter absolument, parce qu'il y a des morceaux super à l'intérieur. Eh bien, merci Paul d'avoir passé avec nous ces 2 heures culte. Tu es culte, je te le confirme. Et on a passé vraiment un moment merveilleux à évoquer une génération que certains ont connue et certains ont vécu et que d'autres ont découvert au travers de ce que tu nous as raconté aujourd'hui. C'était passionnant. Merci mille fois d'être venu dans Culture Culte.
Merci à vous aussi, c'était super.
Anissa, demain c'est dimanche, on va avoir qui ? Dans Culture Culte à 16h.
Karl, c'est une femme, ça y est, la première de Culture Culte pour cet été. Victoria Bedeau sera avec nous pour 2 heures à partir de 16h demain.